Oui, une petite question. Par rapport aux décisions de chaque famille pauvre d'accepter le raccordement, quel a été le rôle du mari et de la femme? Ma question est simple. Connaissant un tout petit peu des zones rurales du nord Mali et du nord Niger, j'ai rencontré un certain nombre d'hommes qui disaient, on s'en fiche, que ma femme aille à 1 km ou à 5 km. Ils ne nous le disaient pas comme ça, mais c'était ça.
Ouais.
L'homme s'en fichait, c'était la femme qui était demandeuse.
Ouais.
Quelle est l'expérience que vous avez vue?
Vous avez un début de réponse sur la photo. Voyez? Et vous avez une double réponse si vous regardez de près. Vous avez des femmes en fichu, hein, donc des personnes du quartier, et vous voyez une grande blonde qui tient un petit gamin dans les bras, au fond. Et qui est la responsable, c'est Madame Ingrid Péchel, qui est la responsable du département d'accompagnement clientèle, qui vient de la mairie de Paris et qui est assistante sociale de formation. Et donc, le trait que vous soulignez, la sociologie qui est en question, le poids des femmes, évidemment, a été d'emblée compris par l'opérateur, et il a bâti sa structure en passant par les femmes.
Mais comment les femmes ont convaincu leur mari?
Alors, il y a un argument important, c'est la borne Fontaine. Les hommes ne supportent pas de voir leur femme faire la queue aux bornes Fontaine, rencontrer n'importe qui, échanger des informations qu'elles n'ont pas à connaître, de perdre leur temps à l'extérieur plutôt qu'être à l'intérieur. Et là, il y a évidemment un trait culturel important. Et la borne Fontaine est vue comme un lieu de perdition, exagérons pas, mais enfin, en tout cas, porte ouverte à tous les dangers. Donc les hommes ont considéré que le robinet domiciliaire avait cet avantage, avec la vraie question qui est au bout, c'est-à-dire que la sociabilité des femmes, du coup, s'est trouvée enfin, remise en question, en tout cas celle qu'elles avaient. Alors elles peuvent aller au marché, elles peuvent aller à la mosquée, il y a d'autres façons de vivre en société. Mais la borne Fontaine avait cette fonction. Et là, ça a marché à rebours. C'est-à-dire l'accord, les femmes voyaient que avoir l'eau à domicile pour la lessive, tout ça, c'était évidemment pour eux, pour elles, tout à fait intéressant. Les hommes y ont vu cet avantage culturel, je dirais. Donc il y a une convergence qui fait que le débat s'est pas vraiment posé ou que la réponse est arrivée d'emblée. Oui, il n'y a pas eu d'enquête de ce côté-là, mais c'est tout à fait possible. Non, non, globalement, on est sur des populations qui avaient ce besoin en eau, hein, domiciliaire. C'est-à-dire que les hommes eux-mêmes, pour l'hygiène, etc., vous voyez très bien que c'était important d'avoir accès à ce service. Ça change tout. On est dans une problématique spécifique de population qui est demandeuse de ce service. Ouais. Oui?
Oui, à partir du moment où on double ou on triple la consommation de l'eau ou la demande en eau, le Maroc, c'est un pays qui connaît des problèmes au niveau de la ressource. D'où vient l'eau? Est-ce qu'il y a des lacs, des rivières, ou est-ce que c'est la nappe phréatique?
Le roi Hassan II avait enfin, dans ce domaine, une vision tout à fait anticipée et avait, à la fois pour des raisons d'irrigation et d'urbanisation, développé une politique de barrage, de grands barrages. Donc le Maroc s'est doté de plusieurs centaines de grands barrages qu'on voit quand on survole le pays en avion et qui permettent aujourd'hui de disposer pour l'irrigation et pour l'approvisionnement des villes de quantités d'eau suffisantes. Mais votre question est judicieuse, d'abord parce que les besoins s'accroissent. Enfin, ce n'est pas tant les milieux populaires là, que j'ai évoqués qui font basculer la consommation, mais globalement, le train de l'urbanisation fait que les volumes augmentent en permanence et qu'à l'horizon 2020, on risque d'être à saturation de la capacité, dans l'état actuel de l'adduction, hein, de la capacité de distribution. Mais le Maroc a une politique prévisionnelle et donc suit les besoins futurs en eau et donc va chercher l'eau de plus en plus loin, ce qui explique aussi le coût croissant de la fourniture de cette eau. On n'est pas encore enfin, on n'est pas encore, je ne sais pas si le mot encore convient, mais il n'y a pas de problème d'approvisionnement, ni présent, ni futur. Hein, on est dans des situations, même si le Maroc est en situation de stress hydrique, on est globalement en moyenne dans des situations satisfaisantes. Où ça devient Avec les barrages plus compliqués, c'est que l'envasement des barrages est important, hein, parce qu'il n'y a pas eu de reforestation suffisamment efficace sur les bords des barrages. Donc, beaucoup de sédiments sont tombés au fond des lacs de barrages. Et en réalité, les volumes réels utiles donc qui contiennent de l'eau, qui sont de l'eau, ne sont pas ce qu'on pourrait mesurer en remplissant une vallée, avec en fermant une vallée avec un barrage. En réalité, dans certains cas, il y a des niveaux d'envasement qui sont de 20, 30, 40% du barrage. Donc la réalité entre le nombre de barrages et le volume d'eau disponible n'est pas exactement le même. Donc ça, c'est une variable qu'il faut suivre de très près. Un élément d'information supplémentaire, c'est que les villes sont prioritaires. Le Maroc, on le sait, avec ce qu'on appelle l'eau virtuelle agricole, c'est-à-dire quand vous achetez des tomates du Maroc, vous achetez de l'eau. Hein, enfin, largement, je ne suis pas agronome, je ne sais pas combien de centaines de litres d'eau il faut par derrière pour produire une tomate, mais en réalité, c'est de l'eau que l'on achète. Et le Maroc, paradoxalement, comme beaucoup de pays, exporte de l'eau de ce point de vue. Et l'irrigation donc est une très très grande consommatrice d'eau quand il s'agit d'une irrigation gravitaire. Et le Maroc fait un effort important pour passer à une distribution au goutte à goutte de façon à avoir un rendement bien meilleur que ce qui est actuellement. Mais c'est une question lancinante de, je dirais, moyen long terme, qui est déjà évidemment pris complètement en compte, y compris par l'opérateur qui, lui, doit pouvoir s'assurer qu'il va avoir de l'eau donc qui vient des barrages. Pour répondre à la remarque juste que vous faites sur l'eau souterraine, là aussi, il y a une évolution qui fait que les captages individuels qui sont faits ou par les agriculteurs ou par les ménages aisés de la périphérie, ces prélèvements sur la nappe sont destinés au jardin, à laver la voiture, à arroser, etc., mais pas à usage, je dirais, hygiénique, usage humain direct. Et là, il faut de l'eau potable. Hein. Donc, il y a des maisons en périphérie dont les propriétaires ont fait des forages. Tout ça n'est pas forcément contrôlé, c'est le moins qu'on puisse dire. Et on n'a pas forcément un compteur à la sortie de chaque prélèvement, donc on ne sait pas quel est l'état de la nappe. Mais il suffit de demander aux foreurs à combien ils descendent, à combien ils descendaient il y a 10 ans, il y a 5 ans et maintenant, et on voit qu'ils sont obligés de descendre de plus en plus bas, ce qui est mauvais signe, évidemment, sur la hauteur de la nappe, sur la hauteur et sur la qualité, puisque 8% à peu près des eaux usées sont traités au Maroc. On était à 5, il y a un vrai effort qui a été fait avec le plan national d'assainissement, mais il reste encore fort à faire. Hein. On a commencé, c'est une règle générale mondiale, on commence par distribuer de l'eau, et puis ensuite on s'intéresse à l'assainissement. Alors le ensuite, il tient à quoi? Il tient au fait que les volumes d'eau distribués sont considérables, que les villes sont de plus en plus grandes et imperméabilisées, et donc on ne peut plus laisser cette eau se transformer donc en cloaque, en bouillon de culture. Mais il faut distinguer deux choses dans l'assainissement. Il faut distinguer la collecte des eaux usées et l'épuration, ce qui n'est pas forcément la même chose. Des villes comme Marrakech ou Fès ou Meknès, des villes de l'intérieur, font des efforts de collecte donc des eaux usées, mais déversent ces eaux usées dans les ouèdes environnants. Donc on n'a pas d'épuration forcément. Et donc le résultat, c'est qu'on a des fleuves contaminés ou, si ce n'est pas le cas directement, on a des nappes qui sont contaminées et qui sont d'un usage risqué, ou en tout cas très, très limité. Voilà. Donc on n'a pas cette possibilité d'utiliser des eaux souterraines. Il reste la troisième voie du dessalement. Le dessalement reste très cher parce que ça demande énormément d'énergie. Le Maroc le fait dans les provinces du sud, hein, dans ces régions les plus au sud du Maroc, Dakhla, Laayoun, où là, effectivement, le dessalement est la meilleure solution puisqu'il n'y a pas de barrage. On est aux portes du Sahara, mais on est sur des petits volumes de population, donc c'est relativement accessible, mais néanmoins, le coût de l'eau dessalée est extrêmement élevé. Donc ça suppose... L'Algérie peut se le permettre parce que là, le pétrole, le Maroc, lui, n'a pas de ressources énergétiques, il passe au solaire, mais on est loin encore du compte. Et l'autre problème qui se pose, c'est celui de la saumure. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a dessalé l'eau, vous avez des volumes de sel considérables qui vous restent à traiter. L'Algérie, de ce que j'ai compris, les met sur des bateaux et reverse tout ça en mer. Bon, ce qui fait que la boucle est bouclée. Le Maroc, lui, n'est pas encore là. Enfin, les volumes ne sont pas suffisamment importants pour qu'il ait ce genre de stratégie, mais ça n'a pas que des avantages. Hein, voilà la difficulté de ces sources d'approvisionnement. Mais en tout cas, ce ne sont pas les quartiers précaires qui sont les plus gros consommateurs. Hein. On est sur, en moyenne au Maroc, là, on doit être sur 120 litres à peu près par jour et par personne. Là, on est à 80 litres à peu près.
En matière sanitaire, on a assez de recul pour voir une amélioration en matière de mortalité, infantile.
Oui, vous posez une question intéressante. Est-ce qu'on a suffisamment de recul pour voir si effectivement l'accès à... quel est l'impact finalement de l'accès à l'eau en termes sanitaires de santé publique? On n'a pas proprement parlé d'indicateurs précis hein, qui permettent de mesurer cette affaire. La question, enfin, plutôt la réponse est complexe parce qu'en réalité, moi je prêche pour qu'autour de quartiers comme cela, on ait un véritable observatoire qui soit installé de façon à la fois voir la pérennité de cette inclusion urbaine, que les gens restent bien dans ces dispositifs. Que ce soit les mêmes qui restent, hein, qu'on n'ait pas un phénomène qui s'appelle la gentrification, c'est-à-dire qu'il y a des riches qui viennent s'installer et qu'eux partent et qu'eux se retrouvent à l'extérieur, mais aussi en introduisant des aspects sanitaires. Et on n'a pas d'éléments. Il faudrait très concrètement aller dans les centres de santé autour et voir comment se passe comment évolue cette situation. Mais les grandes enquêtes de l'OMS, hein, l'Organisation mondiale de la santé, montrent très clairement qu'il y a une corrélation forte entre l'accès aux services d'eau potable et l'amélioration de l'état de santé, en particulier des plus jeunes enfants, hein, je l'ai indiqué, avec un taux de mortalité extrêmement élevé. Il manque, c'est vrai, cet outil pour précisément, sur des opérations ciblées, faire ce type d'approche. Un travail similaire a été fait à Tanger, au nord, donc un grand port au nord du Maroc, où un autre opérateur privé, qui est Veolia, qui a le même système de contrat de délégation, de service public, et il a fait venir une sommité française du MIT, une économiste française, qui a été chargée de mesurer l'impact du raccordement sur les populations. Et à Paris, elle avait fait une grande présentation sur cette opération d'évaluation qu'elle a faite. Malheureusement, c'est un peu décevant parce que la qualité de l'eau distribuée dans les bornes fontaines, qui déjà est en circulation, et de l'eau de bonne qualité. Alors, il y a des risques sanitaires, évidemment, mais pour comprendre, on ne passe pas d'une situation d'eau puisée dans le marigot, avec tout ce que ça a de point de vue sanitaire, de calamiteux, catastrophique, à l'eau au robinet. Hein, on passe de la borne fontaine, qui est en réalité la même eau, distribuée dans le robinet ou dans la borne fontaine. Donc, cette évaluation qui a été faite ne nous disait pas grand-chose, parce qu'elle n'a pas travaillé sans doute assez finement, pour mesurer cet impact, sans doute marginal, mais positif, de passer de la borne fontaine au robinet. Hein. Le vrai seuil, c'est de passer du marigot, des vendeurs à la sauvette, de l'eau puisée dans un puits mal entretenu. Là, oui, là, il y a un seuil qualitatif évident. Par contre, ce qu'elle a mis en évidence, c'est... Il s'agissait le nom me revient, d'Esther Duflo, une économiste très, très tendance, mais qui est finalement un peu déçue parce qu'elle n'a pas pu mettre en évidence des mouvements sans doute marginaux, mais qu'il aurait été intéressant de pointer. Mais ce qu'elle a remarqué, c'était le temps libéré pour les femmes et pour les enfants, le temps libéré, puisqu'il n'y avait plus ces corvées d'eau à assumer. Et bon, malheureusement, on lui a évidemment la question qui se pose, c'est-à-dire, mais que font les gens de ce temps libéré? Bon, elle n'est pas allée beaucoup plus loin là encore, malgré le coût énorme de cette opération. Bon, elle nous a parlé de choses que l'on sait, hein, de convivialité, que les gens se recevaient plus. Non, c'est sûrement autrement plus compliqué, avec des activités à la clé, avec la scolarisation. C'est surtout ça qui est important. Est-ce qu'il y a une amélioration de la scolarisation? Mais en fait, c'est des processus, je dirais, enfin, il faut les suivre sans doute, mais qui sont spontanés. Hein. Quand on accède à ces services, on a ensuite un cercle vertueux qui commence, alors plus ou moins vite, plus ou moins précis, effectivement, mais je crois qu'il faut, et là l'exemple montre très clairement, c'est un peu de l'argent, passez-moi l'expression, gaspillé, je dirais, que de payer ce genre d'études plutôt que de payer du raccordement et de renforcer l'accès aux services. Avec, je dirais, en matière d'observation, de mettre en place un observatoire qui serait national, qui serait en l'occurrence marocain, de façon à ce que les autorités aient un véritable tableau de bord, qu'ils voient les faiblesses, les forces, les avancées à réaliser, les retards. Voilà. Et ça manque considérablement. Parce que, c'est un débat là qui nous amène un peu plus loin, mais on voit bien qu'on est dans des approches projet, c'est-à-dire qu'on va mettre de l'eau ici, on va mettre tel service à tel endroit, on va faire développer de l'alphabétisation, voilà. On est dans une parcellisation de l'intervention de l'action publique et on n'a pas cette vision transversale, peu stratégique, qui finalement nous permet de dire on est dans un processus de développement qui s'est enclenché et qui est porté. S'il n'y a pas de la voirie, les camions vont passer sur les tuyaux et vont tout casser. Hein, s'il n'y a pas de centre de santé, les gens vont considérer que ces quartiers sont insupportables, on n'y vit pas bien, et donc il va y avoir un amalgame entre la qualité du service que je produis et la mauvaise qualité de vie du quartier. Voilà, et cette approche projet, je crois qu'on est en train d'en sortir petit à petit, où on considère qu'il faut avoir maintenant cette vision urbaine plus intégrée, une vision du développement local qui soit plus intégrée et qui est indispensable à prendre en compte. Question ? Pardon, il y avait une question au fond, je vous passe la parole après. Ouais. Je vous en prie.
Oui, je voudrais savoir, s'il vous plaît, est-ce que l'accès aux services... Je voudrais savoir, est-ce que l'accès des quartiers périphériques aux équipements, il est accompagné par des autres services, par exemple le transport? Parce que vous avez montré qu'il y a un tracé de tramway à Casablanca, mais je ne sais pas si ces quartiers-là ils sont accessibles bien.
Oui.
Merci.
Non, globalement, la réponse, elle était un peu dans l'intervention que je faisais précédemment, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans une cohérence des différents services. Hein. Les ministères, c'est pas à vous que je vais l'apprendre, les ministères travaillent bien, mais de façon extrêmement segmentée. Le ministère des Transports, il a sa ligne, si je puis dire, sa ligne de travail, le ministère de l'Urbanisme, autre chose, etc. Et l'absence de passerelle fait que la réponse est évidemment pas franchement positive. Non, on n'a pas cette vision d'une stratégie cohérente lorsqu'on a un quartier qui est traité, comme celui-là par exemple, sur Casablanca. Eh bien, il aurait été important que le ministère de l'Éducation nationale, le ministère de la Santé, fassent partie de ce tour de table. Qui soit partie prenante en disant attendez, les gens vont accéder à l'eau, à l'assainissement, très bien, mais il nous faut un centre de santé pour avoir un suivi justement en matière d'hygiène. Et puis, on l'a vu dans le cas des bidonvilles, les gens vont être délocalisés dans la grande périphérie de Casablanca. Il est indispensable qu'il y ait des lignes de bus et voilà. Mais ça ne s'est pas véritablement mis en place. Ça se fait, mais pas dans une cohérence qui est, je dirais, complète.
Oui, je connais un petit peu le Maroc pour le fréquenter depuis 1998. Et comment dirais-je, en termes d'évolution climatique, bon, j'ai ma petite idée personnelle là-dessus, mais est-ce qu'il y a des instruments de mesure qui définissent l'évolution, les tendances actuelles de l'évolution climatique au Maroc? Chute, comment dirais-je, capacité des précipitations, zone de sécheresse accentuée, enfin remontée en zone de la partie pré-saharienne.
Oui. Alors, je suis désolé, je suis économiste, je ne suis pas météorologue, mais je vais quand même empiriquement essayer de vous donner quelques indications. D'abord, dans la réalité quotidienne, mais ce qui n'a pas de sens, puisque ce n'est pas à vous que je vais apprendre que l'évolution météorologique se mesure sur le long terme, donc ce qu'on constate. Mais néanmoins, je crois que c'est en novembre 2010, si je ne dis pas de bêtises, oui, il y a eu un événement climatique extraordinaire sur Casablanca qui fait qu'en une nuit, il est tombé autant qu'en un mois ou deux ou trois, enfin, c'est quelque chose de considérable. Je n'ai pas les échelles en tête, hein, ce n'est pas ma tasse de thé, si je puis dire, mais très concrètement, des morts, des dégâts, Et une situation qui a surpris tout le monde. L'opérateur, quand l'hiver arrive, au mois d'octobre, novembre, fait le curetage de tous les réseaux, nettoie tout, se met en position comme une sorte de veillée d'armes, hein, classique, comme tout opérateur. Mais là, il a été totalement débordé, c'est le cas de le dire, par la puissance de cette pluie. Alors, ce qui est intéressant ensuite, c'est les réactions à la fois de la population, des autorités. Qui est responsable de cette montée des eaux, en quelque sorte? Évidemment, l'opérateur est tout de suite dans la ligne de mire, sauf que cette fois-ci, il est apparu très clairement que les responsabilités étaient partagées. C'est-à-dire qu'on ne peut pas incriminer l'opérateur, on ne peut pas le charger de tous les maux. Quand l'opérateur dit « moi j'ai fait ce que j'ai pu, ce que je devais faire dans le cadre du contrat avec les réseaux existants », on ne peut pas lui demander plus. Il a rempli son contrat, c'est le cas de le dire. Pour aller au-delà du contrat, il faut quoi? Ben, il faut de l'argent. Il faut une volonté politique qui fasse que on double les canalisations, on fasse des bassins de rétention. On est tout un système de simulation que l'opérateur a mis en place, hein, qui permet de voir comment, en cas de chute de pluie importante, où cette eau va-t-elle percoler, comment elle va s'évacuer. Ça, c'est facile de faire une simulation. Enfin, facile. C'est un travail technique, mais virtuel. La question, c'est que l'opérateur dit derrière, il faut mettre des bassins, il faut drainer. Bon. Mais lui, il se retourne ensuite vers les autorités en disant, mais ça, comment je vais être financé? Parce qu'il faut savoir que le contrat, évidemment, le contrat de délégation précise toutes ces données à la fois climatiques et théoriques, et les données financières qui vont avec en matière d'infrastructure, de diamètre, de taille des bassins, etc. Mais quand le contrat, c'est une réponse, je dirais, implicite à votre question, quand le contrat se trouve dépassé par la réalité, eh bien, il faut faire un avenant, il faut tout reprendre, mais l'opérateur dit « attendez, moi je ne peux pas financer plus, j'ai mon business model qui est équilibré, mon modèle économique qui fonctionne. Si on se retrouve devant des situations imprévues, et qui vont nous obliger à financer du pluvial. On sait qu'en France, c'est un problème aussi. Le pluvial, entre les municipalités, les opérateurs, c'est jamais simple, a fortiori dans des situations comme celle-là, où on considérait jusqu'à présent que le pluvial n'était pas essentiel. Sauf que, tendanciellement, on s'aperçoit que le changement climatique devient plus qu'un mot d'ordre. Il y a des événements qui laissent penser qu'on est dans des phénomènes contrastés, à la fois désertification, et à la fois des aléas climatiques extrêmement intenses qui remettent en cause finalement des prévisions. Enfin, c'est intéressant finalement, pour faire court, de comparer la durée de vie d'un contrat qui porte sur 30 ans avec des aléas climatiques qui évoluent sur quelques années. Et on a là, évidemment, une inadéquation entre la conception du développement avec les outils dont on se dote et puis la réalité empirique. Les faits sont têtus, hein, comme disait De Gaulle, et les faits climatiques aussi. Voilà.
Oui, moi je voudrais revenir sur l'étape de consultation, en fait, négociation entre la commande des services d'aménagement et la demande des habitants. Parce que pour moi, il y a un réel enjeu, en fait, en termes de succès, en fait, de toute cette opération. Et est-ce que c'est possible d'avoir quelques renseignements en plus, des précisions sur les acteurs, en fait, qui ont été vraiment sur le terrain? Là, on voit par exemple une assistante sociale, en fait, sur la photo.
Ouais.
Quels acteurs et quelles stratégies, méthodologies
D'accord.
ont été appliquées sur cette phase de négociation, en fait?
Une cinquantaine de personnes ont été recrutées dans tout l'organigramme. Hein. Je parle de ce qui s'appelle la direction INMA. INMA voulant dire développement en arabe, donc qui a été créée à la suite de la décision de l'INDH. J'y reviens pas, mais donc votre question, c'est bah, qui a fait quoi et comment ça s'est passé. On a noté tout à l'heure l'aspect féminin, mais on peut préciser, vous m'en donnez l'occasion, on peut préciser l'aspect social, c'est-à-dire que bon nombre de ces personnes, de ces agents qui ont été recrutés pour travailler sur le terrain, étaient des gens qui étaient issus de ces bidonvilles, hein, qui ont des niveaux scolaires parfois tout à fait intéressants. Certains sont même en cours de doctorat. Alors, ils sont minoritaires, mais il y a eu un travail d'identification de ces compétences, de sélection. Et vous voyez bien le but de la manœuvre, qui est une stratégie de pénétration, hein, de façon à avoir des relais, de ne pas arriver complètement parachuté avec un langage, avec des comportements qui seraient décalés. Donc là, il y a un vrai savoir-faire sociologique, hein, sur la façon de se présenter. Le travail qui a été fait a été d'abord un travail d'identification, une fois présenté le projet, comme on le voit là, un travail d'identification sur une base architecturale, c'est-à-dire des bâtiments. Pour parler clair, c'est-à-dire qu'on n'a pas fait d'enquête, enfin moi je les ai vus faire, hein, j'ai participé directement, mais ils n'ont pas fait d'enquête directe, vous voulez l'eau, quel âge vous avez, d'où vous venez, l'âge du capitaine, etc. Non, c'était les bâtiments depuis le bidonville jusqu'à la villa chic, ils ont déterminé 5 catégories et en disant on va éliminer le bidonville et on va éliminer... Compte tenu de ce que voulaient les autorités, hein, l'opérateur, il fait coopérer, hein, il ne décide pas. Et donc, un travail méthodique, hein, j'ai vu leur document méthodologique, sur une base architecturale. Et à partir de là, ensuite, ils ont organisé des focus groupes, selon la formule classique, donc réunissant des gens, des leaders d'opinion, de quartier, les autorités locales, donc les CAID, les MOCADEM, qui ont été réunis pour expliquer comment tout ça allait se passer. Mais en ayant l'assurance que la distribution d'eau arriverait très vite. C'est-à-dire qu'ils se sont, dans certains quartiers, ils sont carrément plantés. Ça ne tenait pas à eux, mais où ils ont fait ce type d'information. Et puis ensuite, quand ils ont voulu commencer à brancher, à distribuer les abonnements, etc., les amenées d'eau ne sont pas faites parce qu'un service qui aurait dû faire n'a pas fait... Le résultat, c'est que les gens sont restés pendant un an à attendre le raccordement. Vous imaginez la frustration et la tension. Si on se rappelle le contexte du printemps arabe, hein, les gens sont dans la rue, caillassent, exigent, demandent, parce qu'ils n'ont pas l'intention de se laisser mener en bateau. Donc il y a une insertion, une pénétration dans ce quartier, dans ces types de quartiers qui doivent être particulièrement bien dosés. Et en disant aux gens, on va identifier ceux qui sont éligibles et ensuite il y aura ceux qui sont bénéficiaires. Par exemple, les locataires ont été éliminés. Un locataire ne pouvait pas demander d'être accordé. C'est que les propriétaires. Voilà. Et les propriétaires, il fallait qu'ils aient une carte d'identité sur laquelle l'adresse du quartier et de la rue et du logement dans lequel ils sont apparaissent. Hein, et donc il y a eu comme ça, au total, 22% des ménages qui ont été évincés de cette opération. C'est là où le rôle de l'opérateur est important. C'est que l'opérateur, lui, il a des aspects techniques et sociaux à prendre en compte et commerciaux. Imaginez quand vous faites passer des réseaux et que vous avez un ménage sur 5 qui n'est pas raccordé à l'eau potable. On les raccordait à l'assainissement nécessairement, mais comme il n'y a pas d'eau au robinet, pour eux, ça ne changeait rien. Mais techniquement, c'était convenable. On se disait un jour ou l'autre, ils seront de toute façon raccordés, donc on les raccorde à l'assainissement. Ça n'a pas d'incidence. Mais par contre, pour l'eau potable, il fallait que les autorités donnent leur feu vert, et dans certains cas, et c'était donc un cas sur 5, les autorités, en moyenne, n'ont pas donné leur feu vert. Donc que faisait ce 1/5 des ménages ? Ceux qui étaient rejetés en quelque sorte par les autorités, j'insiste, eh bien ils fraudaient, ils faisaient des piquages directement sur les réseaux. Mais ce qui est parfaitement légitime, complètement illégal, mais parfaitement légitime. On ne peut pas imaginer de voir passer un tuyau d'eau devant chez soi, tout le monde à l'eau, et vous, parce que vous n'avez pas le bon numéro sur la carte d'identité, etc. Et des raisons administratives sordides, on va dire, ah ben non, vous ne serez pas raccordé. Bon, évidemment, piquage et fraude, selon la terminologie. La position de l'opérateur était intéressante. C'était non pas de dire il y a fraude, on va sanctionner, on va repérer la police, etc. L'opérateur s'est retourné vers les responsables politiques. Il y a un exemple particulier où il a fallu expliquer pied à pied, cette personne-là, Ingrid, a expliqué pied à pied à ce qui serait l'équivalent d'un préfet ou d'une préfète, qu'il fallait absolument raccorder ces gens, qu'un jour ou l'autre, on retrouverait les documents, que de toute façon, il fallait les faire rentrer dans le dispositif. Voilà, parce que, à la fois pour des raisons sociales, je connais ces gens, une bonne mentalité, puis une raison objective, commerciale. Ça n'a aucun sens d'avoir comme cela une ségrégation en quelque sorte, sur du service public, hein, sur de l'accès à du service en réseau. Mais ça suppose de la négociation qui n'est pas seulement avec les ménages, mais aussi avec les institutions. Parce que les responsables institutionnels, évidemment, se couvrent en disant « moi, je ne peux pas raccorder n'importe qui, n'importe quoi ». Parce que vous voyez bien l'effet d'appel d'air qu'il y a une fois de plus par derrière. Hein, le risque que si vous raccordez à la volée, en quelque sorte, eh bien, vous allez avoir une attractivité. Enfin, on voit bien le problème qu'on a chez nous avec un certain nombre de populations aussi. Si on accepte, c'est la porte ouverte. Alors on peut tout penser, mais la mise en œuvre, c'est autrement plus compliqué. Et donc, il y avait cette négociation aussi avec les institutions. Pour répondre de façon synthétique à votre question, ce qui est intéressant dans ce projet, c'est qu'on a une méthodologie qui est efficace. Il y a une négociation avec... La clé de votre question, c'est qu'on a des populations qui veulent l'eau. Hein, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans un marchandage en disant « mais si, prenez-la, voilà ». Non, les gens disent « moi, je veux l'eau ». Dites-moi les conditions. Ah, ben, c'est des conditions administratives. Et là, ça devient un peu plus compliqué. Mais là, ça dépasse directement l'opérateur qui est obligé de négocier avec les institutions. Hein, voilà. Mais évidemment, on a des cas de raccordement en eau avec des populations extrêmement pauvres qui, elles, ne peuvent pas payer. Hein, là, ce n'est pas le cas. Et donc, il n'y a pas eu cette dérive qui aurait consisté à dire pour vendre de l'eau et pour des raisons commerciales, moi je vais raccorder le plus largement possible, ça me fera toujours des recettes. Enfin, les opérateurs ne sont pas stupides, ils savent très bien que si les gens ne sont pas à l'aise dans le raccordement, enfin, du point de vue financier, qu'ils n'aient pas une perspective un petit peu de moyen terme, ils ne vont pas s'amuser à raccorder de façon inconsidérée. Oui.
J'avais une question qui va être un peu compliquée à expliquer, je pense. C'est par rapport, en fait, vous avez parlé un petit peu d'urbanisation et de projets urbains, en quelque sorte. Ouais. Et je voulais savoir comment vous vous positionnez et sur quel modèle urbain quel est le modèle urbain, quel est l'objectif final de... Est-ce qu'il y a un dessin final urbain qui va dans le sens de votre... adduction au réseau d'eau et dans le sens aussi où on voit que c'est des entreprises européennes, enfin françaises, qui interviennent beaucoup dans la gestion, techniquement et dans les institutions. Et du coup, dans le sens où elles influencent grandement le fonctionnement et l'imaginaire et le modèle justement marocain vers un modèle français qui a connu qui s'est développé dans les années 60 et qui aujourd'hui on a beaucoup de, enfin il y a les limites sont connues quoi. Et donc bien comment sûr. Vous vous positionnez là-dessus sur ce management, mais aussi sur la prise en compte historique des modes de vie et ainsi de suite.
Enfin bon, moi j'ai pas de position personnelle à exprimer sur le sujet, sauf que je vois bien l'interrogation, je dirais légitime, que vous posez. Alors vous parlez de dessin urbain, de grand dessin. Bon, il n'y a pas de dessin urbain. En réalité, on est dans un processus d'urbanisation. Je vais pas y revenir, qui est spontané. L'Europe a connu ça, et l'ensemble du monde. C'est un processus naturel de l'agrégation humaine. On ne vit plus de façon isolée en milieu rural, mais on s'agrège en ville, quitte à repartir ensuite. Voilà, bon, la réalité, elle est là. La véritable question, c'est la maîtrise d'un processus qui est naturel. Hein, voilà, pour ce qui est du préambule que vous avez posé sur le grand dessin, moi, il me paraît, si je peux émettre une remarque, me semble importante, c'est la maîtrise de ce processus. Or là, on le voit très bien dans ces métropoles de pays extrêmement dynamiques ou dynamisés, la maîtrise, elle est très peu là. On est dans des phénomènes, soit par le haut, phénomène de rente et d'appropriation, soit par le bas, de phénomène de subsistance et d'intégration à la va comme je te pousse en ville. Et tout le problème, c'est de passer de ce que j'appellerais, de ce qui s'appelle l'agglomération à la ville. Hein, on parle des villes métropoles, enfin les villes du sud, etc. Si on regarde de plus près le concept, on est dans de l'agglomération de bâtis, de richesses, de pauvreté, d'hommes, de femmes, démographique, sociologique, de culture, etc. On est de l'agglomération au sens que on a de l'agglutination. On n'a pas une ville avec un grand V, avec une âme, avec une qualité de vie partagée, avec un équilibre, avec un projet commun, avec bon, on peut rêver ensuite sur les grandes valeurs, mais il y a une différence entre l'agglomération et la ville. Là, on est encore dans l'agglomération et la durabilité oblige. Si on veut avoir des processus qui soient durables socialement, environnementalement, etc., il faut passer à la ville. Donc c'est un objectif, voilà un grand dessein, c'est de passer de l'agglomération à la ville. Alors ensuite, pour ce qui est des réseaux, ce que vous évoquez, c'est, j'allais dire, presque de l'histoire ancienne. D'abord, le Maroc a gardé complètement la maîtrise de sa distribution d'eau. Il y a 50% de l'eau potable au Maroc qui est distribuée par des firmes en concession et 50% par des régies publiques. Voilà. Les régies publiques, elles sont, même si c'est plutôt sur les villes moyennes, elles sont confrontées à une autre échelle au même type de problème. Comment traiter les médinas, comment distribuer de l'eau dans les quartiers pauvres, voilà. Et donc, moi, ce que j'ai proposé, c'est que cette méthodologie qui fonctionne à travers les autorités et le ministère de l'Intérieur avec lequel j'ai travaillé, c'est que cette méthodologie soit partagée avec les régies. Et j'ai dit ça aux concessionnaires. Je leur ai dit, mais ce que vous avez là... Moi, je veux bien le travailler avec vous, mais je considère que c'est un bien public marocain. Vous avez mis en place une méthodologie qui doit être au service non seulement du Maroc, mais au-delà, si le cas se présente. Et c'est aussi dans cet esprit que je présente cette réalité. Ce n'est pas pour faire une success story d'une boîte française qui a posé le pied au Maroc, mais pour d'abord reconnaître une innovation, et que cette innovation, elle est au service du développement territorial et donc au service aussi et d'abord du Maroc. Voilà. Pour ce qui est ensuite de la dérive que vous avez introduite, le modèle français qui se répandrait, non, le Maroc, il n'en est pas là. Hein. Le Maroc, il a son modèle, il fait ses choix, des choix politiques, des choix sous influence, comme nous, on fait les nôtres de la même façon. Hein. C'est de l'interdépendance. Il faut savoir, enfin vous l'avez noté, hein, que ce système de délégation de services publics a quand même largement été remis en question. Mais il a été remis en question, je le vois très clairement dans le cas de Casablanca, parce que les interactions, pour deux motifs. D'abord, on était dans une logique de marché où les firmes ont fait à peu près ce qu'elles voulaient. Bon, elles n'ont pas fait ce qu'on leur a demandé. Mais elles ne l'ont pas fait parce que le compte n'y était pas. On va faire très court. Je veux dire, c'est une responsabilité très nettement partagée. Vous voyez, la grande innovation de ce modèle, c'est que c'est les autorités qui définissent les bénéficiaires. Avant 2005, avant l'INDH, c'était l'opérateur qui était en charge de... Le Wali, le préfet de région, disait à l'opérateur, ah non, vous définissez les quartiers. Mais vous imaginez l'aberration. Et l'opérateur, ben, il était sous contrat et vous aviez à l'intérieur de l'organigramme des personnes qui disaient « moi, je vais le faire, je vais y arriver, le management, je connais, droit dans le mur, c'est pas possible ». Ça relève de la souveraineté nationale. Le Maroc l'a compris, il l'a appliqué et a dit à l'opérateur « tel quartier, tel ménage, vous les raccordez ». Ce qui change tout. Si ce préalable n'est pas rempli, évidemment, c'est catastrophique, ce qui a été le cas. Et ensuite, en matière de financement. C'est le cas actuellement. Si l'État marocain ne met pas le financement ad hoc nécessaire, on ne va pas reprocher à l'opérateur de ne pas financer. L'opérateur, il tient dans le contrat, mais si le contrat est dépassé par la réalité de l'urbanisation, il ne va pas y arriver. L'autre élément que je voudrais introduire, c'est que les concessions, on ne va pas tomber dans les détails techniques, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, la différence entre concession et affermage, le concessionnaire, il a en charge il a en charge l'exploitation et l'investissement. C'est-à-dire qu'il doit assurer des coûts d'investissement colossaux. 30 milliards de dirhams, c'est-à-dire 3 milliards d'euros sur 30 ans dans le cas du contrat de concession de Casablanca, ce qui est gigantesque. Mais ce qui ne suffit pas à couvrir la réalité de l'urbanisation de Casablanca, je voulais indiquer. Dans le cas de l'affermage, c'est l'État qui prend en charge les investissements et l'opérateur ne fait qu'assurer l'exploitation. Et on voit bien qu'il y a eu une erreur. Le casting, je dirais, qui a été fait. Pour désigner personne, on peut dire quand même que la Banque mondiale a propulsé ce système de concession en disant, vous avez sûrement entendu ce leitmotiv, l'eau paye l'eau. C'est-à-dire qu'une métropole va être en capacité, en vertu des lois du marché, de payer, de se retrouver à l'équilibre entre ses besoins de financement et sa capacité de paiement. Eh ben, objection, votre honneur, c'est pas possible. Une ville émergente, elle a des besoins en infrastructures qui sont immenses, parce qu'on l'a vu extrêmement rapide. en termes de dynamique, mais en même temps, eau potable, assainissement, pluvial et puis tous les autres services à la clé. Donc les besoins en réseau sont considérables et c'est une aberration dont on voit les effets maintenant de considérer avec le régime de concession que l'opérateur va pouvoir assumer le coût des infrastructures. L'équilibre est impossible. Et on voit bien qu'il y a des inflexions qui sont en train d'être prises pour changer la nature de ces contrats. Donc je dirais la référence que vous faisiez très, très rapidement est largement dépassée par justement cette urbanisation. Le principe de la réalité fait que, les modèles évoluent très, très fortement. Ne pas oublier aussi que ces pays émergents ont une véritable personnalité politique. Enfin bon, une force, une présence maintenant, hein, et qu'on n'est plus dans ce qui a existé, évidemment, vous le mentionnez. C'est vrai, le premier contrat de concession au Maroc, à Casablanca, a été un contrat de gré à gré. Vous imaginez le montant de milliards sur lequel portait ce contrat, de gré à gré, c'est-à-dire pas d'adjudication, pas d'appel d'offres. Hein. On voit bien les dérives possibles, mais les choses ont été ajustées. Le Maroc a ensuite capitalisé une véritable expérience. Ensuite, ça a donné lieu à des appels d'offres. Enfin, tout ça n'est pas linéaire. Hein. Tout ça n'est pas une courbe plate. L'émergence, ça signifie quelque chose. Et avec des conséquences dont il faut mesurer toute la portée.
Oui, ici. Tout à l'heure, vous parliez d'inclusion urbaine par le raccordement à l'eau. Mais vous avez aussi parlé de transfert de population, notamment des bidonvilles, en périphérie de la ville.
Oui.
Est-ce que c'est pas... Et on a entendu aussi que les transports n'allaient pas jusqu'à ces périphéries de la ville. Donc cette inclusion urbaine, est-ce qu'elle n'est pas un peu remise en cause par ce transfert de population pauvre à la périphérie des villes ? On imagine que le centre-ville, il connaît des phénomènes de gentrification, un peu comme dans toutes les villes. Et du coup, est-ce que ce n'est pas une nouvelle exclusion urbaine qui se met en place? Ils seront raccordés à l'eau, mais rien de plus, quoi.
Oui, je crois que vous avez raison de revisiter la notion d'inclusion urbaine. Moi, je l'ai utilisée dans le cas des quartiers sur lesquels j'ai travaillé, des quartiers périphériques, mais quartiers précaires et non pas bidonvilles. Et là, on a les prémices de l'inclusion par l'accès à l'eau et à l'assainissement. Mais l'inclusion, c'est beaucoup plus. L'inclusion, c'est une citoyenneté qui fait qu'on a un service de transport, on a une école, on a un centre de santé, etc. Ce qui n'est pas le cas. Mais vous voyez qu'il faut introduire le facteur temps. Si ces services arrivent au bout de 2-3 ans, on est dans une inclusion urbaine qui est en marche. S'ils arrivent dans 5 ans ou dans 10 ans ou les générations suivantes, c'est vrai que la référence à l'inclusion urbaine est un petit peu, n'est qu'une métaphore ou un vœu pieux. C'est pour ça que j'insiste sur l'idée d'observatoire. Il faut absolument, et c'est un peu le rôle aussi de la recherche, d'accompagner ce processus et de donner finalement de l'épaisseur à ces notions, que ce ne soit pas simplement de la com ou de l'affichage, mais qu'il y ait un contenu. Et j'ai pu dire que dans certains cas, on a effectivement un processus d'inclusion urbaine, dans le cas inverse que vous évoquez, et que j'ai présenté aussi, de ces populations qui sont transférées, délocalisées à l'extérieur de la ville, si elles n'ont pas de travail en périphérie, si elles n'ont pas d'école, oui, l'inclusion urbaine est un mot à peu près inapproprié, enfin parfaitement inapproprié, c'est évident. Mais ça, mettons-le quand même sur la durée. Hein, et ça suppose d'avoir une vision dynamique, une remontée d'informations qui nous disent oui, c'est un processus qui est à l'œuvre. Hein. Ce basculement, cet accès à l'eau et à l'assainissement est quand même qualitativement, c'est toujours pareil, le verre à moitié plein ou à moitié vide. Quoi. Si on considère que l'eau et l'assainissement, c'est un mieux, et donc on est sur le verre à moitié plein, mais et vous avez raison, on dit oui, mais où sont les transports, la santé, et c'est le verre à moitié plein, à moitié vide, pardon, on va y arriver. On voit bien qu'on a deux visions et que la bonne perception, c'est d'inscrire ça dans une vision dynamique et d'avoir des structures nationales qui répondent à la question que vous évoquez. Sinon, c'est des mots d'ordre internationaux qui vivent leur vie un peu en apesanteur.
Bonsoir et merci pour votre présentation. Ça vient en complément de ce que demandait monsieur et d'une question qui avait été également posée. C'était de savoir si les personnes qui ont été déplacées, c'est-à-dire les personnes qui étaient dans les bidonvilles et qui sont maintenant dans ce qu'on peut appeler des quartiers, mais loin, loin des centres, est-ce qu'il y a un indicateur pour mesurer leur qualité de vie et leur bien-être ? Sachant pourquoi je pose la question, pour ce que vous reliatiez également tout à l'heure, à savoir que les attentats de 2003 sont partis d'un mal-être dans ces bidonvilles.
Oui, alors la question est tout à fait judicieuse. Les bidonvilles ont été la source de ces attentats, donc c'est pour ça qu'on a fait de l'habitat social en périphérie. Mais du coup, est-ce que cet habitat social, on voit à quoi ça ressemble, hein, des boîtes à chaussures entassées, est-ce que ça satisfait la sociabilité, la nouvelle sociabilité? Et je dirais même du point de vue sécuritaire, c'est-à-dire que le ministère de l'Intérieur, le service sécurité, s'est lui-même inquiété en disant « mais attendez, les bidonvilles, même si certains nous ont échappé et que des kamikazes ont pu arriver à s'infiltrer ou à surgir, dans cet habitat social, on n'a plus du tout d'en repère. On n'a plus du tout les moyens d'avoir une vision précise de qui fait quoi, qui habite où. C'est un brassage de population. Donc même du point de vue sécuritaire, ce n'est pas forcément un gain. Moi, ce que j'ai entendu dire aussi, c'est que l'exiguïté des logements faisait que l'intimité familiale était extrêmement mise à mal par ce mode de construction. Mais c'est vrai que des enquêtes ont été faites. Hein, j'ai un collègue qui travaille sur ces questions. Il y a un vrai sentiment d'urbanité. On est en ville, on habite comme tout le monde. Et alors et on voit qu'il y a ces deux, pour l'instant, vous imaginez, vous arrivez dans un logement neuf que vous payez qu'en partie parce que c'est largement subventionné, et donc ça sent la peinture, c'est frais, c'est voilà. Il y a véritablement un sentiment de promotion, hein, de reclassement vers le haut. Mais là aussi, donnons de la durée à tout ça, sur la qualité de la construction, sur la localisation, sur les effets pour la scolarité, etc. Moi, ce que j'indique dans les débats dans lesquels je me retrouve, c'est de dire qu'il est important d'avoir des observatoires qui nous donnent un peu la température sur la satisfaction de ces populations, pour ensuite orienter des politiques publiques dans un sens ou dans l'autre. Hein. Il faut savoir aussi, par exemple, et là aussi l'influence du printemps arabe est importante, que les populations qui se sont endettées, même si elles sont subventionnées, elles ont quand même à assurer le règlement d'un certain nombre de dettes, hein, d'échéances financières, puisque tout ça, c'est quand même dans du prêt, même s'il est bonifié. Mais les gens refusent de payer. Une grève maintenant liée à la fois sous prétexte ou avec de bons arguments en disant la qualité n'est pas bonne, je suis trop loin, ça me coûte cher, les transports, rien. Et puis de toutes les façons, je ne payerai pas, c'est indu, j'étais dans mon bidonville, l'État a décidé de me déménager et bon, c'est son problème, ce n'est pas le mien, donc je ne paye plus. Hein, c'est-à-dire que la notion de contrat et d'engagement financier, évidemment, n'engage que celui qui y croit. Hein. Et tout ça est basé à la fois sur la confiance, sur le contexte politique. Le contexte politique qui est devenu très favorable à ces bidonvillois qui font monter les enchères. Parce que ce que ça a mis en évidence, même au-delà du... Enfin, avant le printemps arabe, c'est qu'ils ont compris qu'ils étaient devenus une véritable force, je dirais, d'influence, et qu'ils allaient libérer des terrains, je ne sais pas si vous vous souvenez de la carte sur Casablanca, dans le centre-ville, et donc des terrains extrêmement valorisés, à très forte rente foncière, valeur immobilière considérable. Donc ils ont bien compris qu'ils avaient presque un droit, puisque c'est eux qui libéraient ces parcelles, un droit sur ces terrains, en tout cas sur leur valeur et sur la transaction. Tout ça dans une technocratie prise dans l'urgence, vous imaginez comment ça échappe totalement aux responsables, mais au pied du mur, c'est le cas de le dire, on voit surgir diverses réactions. C'est pas sur de la qualité de vie, mais plus globalement, c'est dans un rapport de force, une façon de vivre sa citoyenneté finalement.
On va, je crois qu'on...